Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Comme toutes les semaines sur Divergence FM, eh bien nous recevons Françoise Verna pour nous parler des grands titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, qui paraît en kiosque ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Adeline, bonjour.
Alors pour commencer, eh bien quels sont les titres à la une de la Marseillaise cette semaine ?
Alors cette semaine, nous avons fait un dossier sur l'importance des festivals en Occitanie, où sont organisés plus de 1000 événements de ce type. Donc nous avons pris l'aspect très économique, hein, puisqu'il faut savoir que la culture en Occitanie, ça génère 4 milliards d'euros de richesses régionales, donc, et des dizaines de milliers d'emplois, de l'ordre de 70 000 emplois. Nous revenons aussi dans ce numéro sur les mesures votées par le Conseil régional d'Occitanie sur la souveraineté énergétique et le pouvoir de vivre. C'est ainsi que l'intitule la région. Donc ce sont une série de mesures comme le train à faible coût pour les personnes âgées après les jeunes, hein, et des mesures comme l'aide à l'achat d'une voiture électrique. Toujours en économie, on s'est penché sur le projet de la Med-Vallée. Donc ça, c'est un projet qui est porté par la métropole de Montpellier. Son financement fait partie du contrat de plan État-Région. Et donc, il y a des ambitions, notamment de faire de Montpellier une ville qui soit vraiment à la pointe de la technologie, notamment en matière de santé. Donc on explique tout ça à nos lecteurs et aux auditeurs, puisque ça peut sembler un petit peu compliqué, mais ça peut générer 10 000 emplois d'ici 2030. Donc c'est intéressant. Sur le côté environnement, nous avons donc interrogé une scientifique sur les risques de tsunami en Méditerranée. Il faut savoir qu'il y a eu donc un sommet sur les océans organisé par l'ONU et nous sommes en Méditerranée soumis à des risques de tsunami et on explique tout ça dans nos colonnes. On revient aussi évidemment, pour la Marseillaise c'est très important, un journal qui s'est toujours mobilisé pour les luttes des peuples pour leur liberté, sur les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, avec un témoin dans nos colonnes qui est Bernard Deschamps, qui a été député communiste du Gard par deux fois et qui est devenu préhistorien et qui a écrit des livres fort intéressants sur l'Algérie. Et nous lançons aussi ce vendredi notre journal de l'été avec plusieurs rubriques inédites pour donner envie aux lecteurs et aux auditeurs d'aller découvrir les multiples richesses et les endroits remarquables de notre belle région.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr. On commence avec votre dossier consacré à l'importance des festivals en Occitanie avec plus de 1000 événements organisés cet été.
Oui, en fait, pourquoi nous avons ces chiffres aussi précis ? C'est que deux chercheurs, notamment Emmanuel Négrier, donc de l'Université de Montpellier, qui est chercheur au CNRS, a écrit un livre sur l'ancrage territorial des festivals. Il a travaillé avec le sociologue Aurélien Djakouan et ils sont arrivés à cartographier sur le plan national le nombre de festivals organisés chaque année. C'est intéressant parce que cela montre le poids important de ces événements sur les territoires et l'Occitanie se place en tête de la liste des villes, des régions qui en organisent le plus, puisqu'il y a 1000 événements qui sont organisés chaque année en Occitanie. Donc d'un point de vue économique, ça représente pas loin de 70 000 emplois, dont 50 000 qui sont 100% culturels. Ça génère 4 milliards d'euros de richesses régionales. Et donc, ces données précises démontrent l'importance de ce secteur. C'est un secteur à part entière, mais c'est un secteur qui a subi aussi de grosses difficultés avec les deux années de pandémie. Donc nous revenons aussi sur ces difficultés et sur le fait que cette année, ça va être une année de reprise, à la fois d'espoir, mais aussi de risque. Il y a aussi l'importance du soutien des collectivités locales, parce que la culture et les festivals, sans le soutien des services publics territoriaux, ils auraient du mal à s'organiser. Donc, on revient aussi sur la campagne de la région Occitanie qui soutient les festivals, d'un point de vue financier aussi, avec des aides de l'ordre de 4 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, mais aussi avec une campagne de communication où on peut voir des spots qui incitent le public à aller un peu partout dans la région, participer à ces festivals qui sont très divers, avec des publics aussi très diversifiés. Et ce que démontre aussi Emmanuel Négrier dans son travail de recherche, c'est que 80% du public, c'est un public issu des villes de la région. C'est-à-dire que ce sont des publics, c'est un public local qui vient essentiellement voir les festivals.
Très bien. On continue maintenant sur les mesures du plan régional sur la souveraineté énergétique et le pouvoir de vivre.
Oui, donc toujours la région Occitanie. La semaine dernière, nous avions fait notre dossier sur la zone à faible émission, la ZFE, qui en fait petit à petit va interdire l'accès aux voitures polluantes dans le certain nombre de métropoles. Mais évidemment, ça pose la question de l'accès à des véhicules qui soient non polluants. Donc la région a pris une série de mesures, on les détaille quasiment toutes dans le journal, on ne peut pas les détailler là dans le détail à la radio, mais par exemple, il va y avoir une extension de ce qu'on appelle l'éco-chèque pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, donc ça va laisser encore le prix de ces véhicules assez cher, mais c'est des aides qui peuvent coupler avec les aides de l'État, voisiner à 14 500 euros à peu près. Évidemment, si on incite les personnes à acheter des voitures électriques, il faut des bornes de recharge électrique. Donc la région aussi va aider et généraliser l'installation de bornes de recharge de véhicules avec un objectif d'en déployer 5000 supplémentaires d'ici la fin du mandat. Dans quelques années. Donc il faut aussi que ce soit des bornes à recharge rapide. Donc voilà, ce sont des mesures pour inciter à faire une conversion de la voiture thermique à la voiture électrique. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des mesures évidemment très sociales, puisqu'il y aura des aides aussi pour voyager en train en direction des personnes âgées, ce qu'on appelle les seniors. Donc c'est un dispositif qui avait permis notamment aux 18-26 ans de se déplacer quasiment gratuitement dans les trains régionaux. Ça va être donc étendu aux seniors, aux personnes âgées. Donc il y a aussi des mesures pour soutenir l'achat des véhicules électriques pour les artisans. Justement, les personnes qui travaillent, qui ont besoin d'un véhicule pour aller travailler, notamment dans ces zones où avec un véhicule thermique, ça va être de plus en plus difficile. Donc la région va aussi soutenir financièrement les artisans. Et puis, il y a l'annonce d'assises régionales de la jeunesse qui seront organisées donc par le Conseil régional à partir de la fin de l'année 2022, après une période électorale qui n'a pas forcément permis d'initier des débats. La démocratie participative est remise en route avec ces assises pour la jeunesse, avec la thématique de l'écologie et du climat en Occitanie.
Très bien, on passe à présent alors au projet de la Med-Vallée de la métropole de Montpellier avec ses trois ambitions, bien manger, partager et se soigner.
Oui, en fait la Med-Vallée, c'est une stratégie hein, de développement économique avec une ambition aussi d'emploi, de création d'emplois d'ici 2030, donc c'est quasiment demain, donc la création de 10 000 emplois. C'est un projet qui va... encourager les entreprises technologiques, notamment en direction qui sont spécialisées en matière d'alimentation, d'environnement et en matière médicale. Par exemple, d'ici 2025 ou 2026, il y a une entreprise qui s'appelle MedXL, qui a pour ambition de devenir un leader de la fourniture de la thérapie cellulaire pour l'immunothérapie. Donc ça va s'implanter au CHU de Montpellier et donc ça va permettre de créer ce qu'on appelle ce hub d'innovation mondiale pour accompagner ces projets innovants sur des questions de santé, mais aussi sur des questions alimentaire, puisque il y a aussi l'ex-musée Agropolis qui va être racheté par la métropole et qui va aussi servir à innover sur les questions de l'alimentation. Donc l'ambition aussi, comme nous l'explique Inde Emad, qui est donc la vice-présidente de la métropole sur ces questions-là, ça vise de rééquilibrer un peu le territoire métropolitain au nord de Montpellier, car il y a beaucoup d'implantations d'entreprises au sud de la ville, mais moins au nord. Donc c'est un projet un peu au long cours, mais qui va se mettre en place petit à petit, qui est donc il y a des cofinancements, c'est dans le cadre donc du contrat de plan État-Région. Donc après, c'est quand même des sommes assez colossales, puisque 200 millions d'euros sont déjà engagés pour 16 projets emblématiques. Donc voilà, c'est important aussi de mettre l'accent sur ces projets d'excellence dans la ville de Montpellier pour continuer à innover et à rééquilibrer aussi la région, puisque c'est vrai qu'on a Toulouse d'un côté avec un grand savoir-faire en matière aéronautique, et Montpellier aussi a des atouts, notamment en matière de santé, puisqu'on rappelle que c'est la plus ancienne faculté de médecine du monde et qui a toujours été à la pointe, et on continue, et ça continue aujourd'hui.
Tout à fait. On aborde à présent les risques de tsunami en Méditerranée.
Oui, alors il ne s'agit pas évidemment de faire peur, hein. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a des risques et qu'il faut donc travailler à la prévention de ces risques. C'est pour ça que nous sommes revenus avec une scientifique qui se nomme Hélène Herbert, qui est directrice du centre d'alerte au tsunami, sur d'abord le risque existant, puisque à l'issue de la conférence des Nations Unies sur les océans, le constat, c'est que d'ici 2030, les populations côtières, notamment du bassin méditerranéen, ne sont pas à l'abri d'un possible phénomène de tsunami. Donc, ce sont ces grandes vagues qui peuvent tout emporter sur leur passage. Donc, Hélène Herbert nous explique qu'on a une faiblesse au niveau de la prévention. Donc, on est très peu habitué à ressentir, par exemple, des secousses sismiques en France, hein. Alors, c'est vrai que dans le bassin méditerranéen, on est peut-être plus habitué à puisqu'on est sur des zones sismiques, mais il y a peu quand même et heureusement de tremblements, hein. Donc il faut apprendre à observer et à s'inspirer des cultures à travers le monde pour apprendre les bons gestes et les bons réflexes à avoir quand on est proche d'un séisme ou qu'on l'a senti. Donc c'est ce qu'elle nous explique. Donc il y a des mesures de sécurité et il faut souhaiter qu'il y ait une éducation dès le plus jeune âge aux gestes les plus, les plus basiques pour s'éloigner, pour se protéger. C'est ce qu'ils font dans des pays comme le Japon, où on apprend très tôt à se mettre sous le bureau à l'école, parce que c'est un pays qui est soumis à des forts tremblements assez régulièrement. Donc c'était intéressant puisque cette conférence des Nations Unies s'est tenue à Lisbonne, donc en Méditerranée, et que nous sommes concernés au premier chef, puisqu'on voit quand même le recul de la bande côtière, hein, et puis il y a ces phénomènes de changement climatique, avec des phénomènes de plus en plus violents, et il faut s'y préparer. Pour s'y préparer, il faut apprendre les bons gestes. Et c'est ce que nous dit Hélène Herbert dans nos colonnes.
Oui, c'est essentiel. On continue à présent, et bien sûr, un autre entretien que vous avez réalisé, celui de Bernard Deschamps, un ancien député communiste du Gard, qui vous a raconté son histoire à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie.
Oui, tout à fait. Donc, c'était le 5 juillet 1962. L'indépendance de l'Algérie était proclamée. Et donc, la Marseillaise a été très engagée dans les luttes anticoloniales. Et donc, le journal a été saisi plusieurs fois pour avoir défendu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme on dit. Et donc, Bernard Deschamps revient pour nous sur l'indépendance de l'Algérie et ce qu'est l'Algérie aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'il a un monsieur de 90 ans qui est un militant anticolonialiste et un militant communiste. Et donc il témoigne sans relâche sur ces grandes luttes pour l'indépendance. Et il faut savoir qu'en 2019, il était en Algérie et il a manifesté avec les Algériens lors du Irak. C'est ce mouvement démocratique, notamment de la jeunesse, pour réclamer de la liberté. Et donc il y avait 1 million de personnes à Alger et il dit que c'était fabuleux et d'une puissance extraordinaire. Donc ce Irak, évidemment, il a été interrompu à la fois par la pandémie, mais aussi par une grande répression. Et donc aujourd'hui, Bernard Deschamps nous explique que même si c'est en sommeil, il est fort possible qu'il y ait quelque chose qui se réveille, puisque c'est un peuple, comme tous les peuples, qui a soif de liberté, de dignité, de démocratie. Et les Algériens, enfin, continuent d'écrire leur histoire, nous rappelle donc Bernard Deschamps. Donc, l'indépendance de l'Algérie, elle fait suite à 130 ans de colonialisme. Et ce qui s'est passé après cette indépendance, c'est qu'il y a eu vraiment des avancées notables, hein, notamment en termes de lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, les Algériens ont entre leurs mains toujours leur destin. Et on voit qu'avec le Irak, qui est en sommeil, nous dit Bernard Deschamps, il y a la possibilité de revenir aux sources même de l'indépendance de 1962. Je tiens aussi à dire que Bernard Deschamps est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Les Gardois contre la guerre d'Algérie », avec des témoignages uniques de personnes qui se sont mobilisées ici, dans notre région, pour l'indépendance. Et aussi un livre qui s'appelle « Le fichier Z » sur les Algériens qui travaillaient notamment dans le Gard et qui comment eux ont vécu la lutte anticoloniale. Voilà, donc on renvoie dans toutes les références des livres dans le journal de vendredi et c'est passionnant.
Très bien. Et pour finir, je crois qu'il va y avoir de la nouveauté dans la Marseillaise ce vendredi.
Oui, tout à fait. Donc nous proposons à partir de ce vendredi notre journal de l'été avec plusieurs rendez-vous, plusieurs rubriques. Donc on va amener le lecteur et les auditeurs à découvrir des endroits remarquables. Cette semaine, c'est le lac de Célès, à quelques kilomètres du pic Saint-Loup. Il y a aussi un grand rendez-vous culturel que l'on choisit. Donc là, on sera plutôt du côté du Gard, avec le festival Cratère Surface, hein, qui a commencé et qui va proposer une quarantaine de spectacles. On propose aussi une bonne adresse pour aller se restaurer. Là, on a choisi le Clos des Oliviers cette semaine. Et puis, on a aussi une rubrique, on va dire, historique, où on va révéler des parcours de vie. Nous avons choisi de parler de parcours de vie de femmes militantes, des héroïnes du quotidien qui sont méconnues. Et pour cela, nous avons un partenariat avec le dictionnaire du mouvement social, qui s'appelle le Métron. Et nous avons donc choisi des personnalités du Gard et de l'Hérault. Et nous allons commencer avec Michel Domenech, qui est donc né en 1913 en Espagne, mais qui est décédé dans l'Hérault et qui a été une grande résistante, une militante, qui a été ouvrière agricole. Je vous en dis pas plus, elle a manifesté en 1950 à Montpellier contre la guerre d'Indochine, et elle a été blessée par une grenade lacrymogène qui lui a fait perdre la vue. Malgré ce drame, elle a continué à militer, et voilà, donc nous donnons à voir et à lire et à découvrir ces femmes qui sont trop souvent laissées dans l'ombre, et que le Métron, je tiens à le dire, c'est complètement gratuit, c'est aussi en ligne si on veut aller voir ses parcours de vie, et nous en rendons compte dans le journal.
Très bien, et bien merci beaucoup Françoise Verna. Je rappelle que tous ces titres sont à retrouver en kiosque dans l'hebdomadaire d'Occitanie, La Marseillaise, en attendant de se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt Françoise.
À bientôt Adeline, merci beaucoup.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Verna. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.